Bonsoir à tous et bienvenue à ce tout nouveau podcast de Triple Option, le meilleur podcast à l'est du Mississippi sur le college football américain. Wow, un autre samedi exceptionnel depuis le début de la saison. On se dit, ouais, c'était samedi long, on sait pas trop, c'est samedi long, on sait pas trop. Chaque semaine, on a des surprises et on a surtout des bons matchs. Quel match au Colorado, my God. On en reparle plus tard, on a la moitié du show à peu près là-dessus. On le dit souvent, mais... C'est lors des semaines avec les matchs qu'on pense le moins intéressant que la majorité du temps, on a les meilleures surprises. Puis cette semaine, ça n'en fait pas exception. Donc, la semaine prochaine, c'est tout le contraire. On a plein de bons matchs à se mettre sous la dent, plein de matchs des équipes du top 25 qui s'affrontent. Souvent, après la troisième semaine, là, les équipes commencent à faire des affrontements interdivision, interconférence. Puis justement, les équipes placées dans le top 25 là, vont finir par s'affronter. Fait qu'on va faire le tour de tous ces matchs-là à la fin du show, comme à notre habitude. Pour parler du dernier week-end complètement cinglé et celui qui s'annonce tout aussi intriguant la semaine prochaine, on a notre collaborateur préféré. Wallet, il est avec nous. Comment ça va, mon vieux?
Ben écoute, ça va super bien. Il y a plusieurs choses. Premièrement, je suis pas dans mon habitacle naturel. Donc, si je chante un peu différent, ceux qui sont sur le live qui me voient, qui disent « Hey, Wallet, il n'y a pas de lunettes. » Ben écoute, je suis techniquement en vacances. Donc, quand tu es en vacances, tu n'as pas besoin de lunettes. Puis, chapeau pour ta calotte, Faf. Quelle calotte incroyable des Ducks. C'est probablement, tu as beaucoup de calottes de qualité, là, mais celle-là, c'est probablement ta numéro un. Écoute, tu l'as dit. Tu sais, j'ai ça de dire, ah, c'est une semaine plate, parce qu'il n'y a pas de semaine plate au college football. Il y a tellement de matchs qu'il y en a tout le temps un, tu es comme, waouh, tu vas voir une fin de match qui va être incroyable. Puis, on a plusieurs matchs à parler. Celui de Colorado, il a duré à peu près 7h30. Donc, oui, on en a long à dire, mais il y a aussi d'autres matchs qui vont avoir une influence majeure sur le reste de la saison. Puis, j'ai hâte d'en discuter avec toi. Puis, comme tu as dit, on met la table pour une semaine numéro 4 qui s'annonce complètement ridicule. Je pense qu'on a 5 matchs du top 25 qui est énormément. Puis, ça va être au plus grand plaisir là, des amateurs là, qui vont avoir des matchs tout le long de la journée. Commençant à midi, donc je laisse ouvrir le show, Faf, là, mais on a du stock à soir.
Yes, ça va être une semaine assez malade. Petite nouvelle, on va commencer juste pour le mentionner au début du podcast, je vais le répéter à la fin, puis on va le mentionner sur nos réseaux sociaux. La semaine prochaine, le podcast en live va être le mercredi, donc on va être en live le mercredi 27 septembre. On a une petite affaire spéciale le mardi qu'on pourra pas être sur le live, donc on va être en live mercredi le 27, donc mettez ça à vos agendas, mettez vos agendas à jour. On a peut-être des petites surprises aussi pour ce live-là, on ne le sait pas. Fait que je vous laisse ça comme information. Passe tout de suite avec le segment nouvelle de la dernière semaine. Yes, donc le segment nouvelle pour cette semaine, comme j'expliquais, la semaine passée, on a glissé un mot à propos de coach Mel Tucker avec Michigan State. Finalement, il a été congédié. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'équipe? Puis ça va être qui leur prochain coach, là, selon les informations?
Oui, premièrement, Faf, là, pour ceux qui ne nous auraient pas écoutés ou qui l'auraient oublié, faut se rappeler là, qu'il y a une enquête contre Mel Tucker pour des inconduites sexuelles. Ce qu'on lui rapproche, c'est que, en gros, il y avait une. On aurait engagé une conseillère pour parler aux joueurs d'agression sexuelle en général. Puis Mel Tucker et cette dame-là auraient eu une conversation de 45 minutes. À caractère sexuel. On dirait que je trouve ça un petit peu bizarre. Là. C'est pas comme si c'était des dick pics qui ont été envoyés sans le consentement de la madame. Il n'y a rien qui l'empêchait de raccrocher. Mais regarde, on n'a pas tous les détails de l'histoire, mais c'est ce qui s'est passé. On le congédie, ce qui veut dire qu'on n'a pas à payer son lucratif contrat de 95 millions qu'on lui avait donné en 2021. Ce qui veut dire que pour Michigan State, il faut s'attendre à une longue bataille judiciaire, puis on devrait en entendre parler là, probablement beaucoup. Qui sera le prochain coach pour eux? Ben là, pour l'instant, là, c'est le coordinateur défensif qui a pris la barre de l'équipe. Moi, je m'attends à ce que Mike Elko, l'instructeur-chef de Duke, soit au sommet de la liste. Qu'est-ce qu'il est en mesure de faire avec Duke, que ce soit au niveau offensif ou défensif, et notable. Sinon, les deux coachs au Kansas, Lance Leipold à Kansas avec les Jayhawks ou Chris Kleiman avec Kansas State, vont probablement aussi recevoir de l'attention. Donc, c'est des coachs dans des plus petites écoles. Puis quand tu reçois un appel comme ça, tu le prends tout de suite. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, puis c'est Campbell, j'oublie son prénom, mais le coach à Iowa State, il y a de ça 3 ou 4 ans, c'était le gros nom dans le college football. Puis aujourd'hui, il n'y a plus personne qui en parle. Il aurait fallu qu'à l'époque, il saute sur l'occasion d'aller dans un gros programme. Donc, si je suis Mike Elko, Lance Leipold ou Chris Kleiman, je saute sur l'occasion d'aller à Michigan State, je suis dans une grosse division, mais tu as aussi de l'argent pour recruter, puis éventuellement faire les éliminatoires lorsque les éliminatoires vont être à 12 équipes. Donc, c'est ce que ça donne. J'ai rien entendu faire au niveau là, du transfer portal. Là. Je sais qu'on avait brièvement parlé la semaine dernière. Il n'y a aucune nouvelle qui est sortie à ce niveau-là. C'est un peu nébuleux. Là. C'est quoi les règlements? Mais il faut s'attendre à ce que certains joueurs quittent, tout dépendant qui va remplacer Coach Tucker.
Yes, effectivement. Donc, on va suivre ça de près pour... la paperasse judiciaire va commencer, les batailles vont commencer. On va essayer de se focusser sur le football d'ici la fin de la saison à Michigan State, mais ça sera pas évident, c'est sûr et certain. Ça a fait beaucoup parler sur le campus, ça fait beaucoup parler dans les médias. Et donc, on va suivre ça pour vous là, d'ici la fin de la saison. On va commencer ça tout de suite, sans plus tarder, avec le segment recap, parce qu'on a du gros jus à se mettre sous la dent ce soir. Yes, on va commencer ce segment-là avec moi qui va vous parler de Alabama. Donc, Alabama qui était 10e au pays, on sont allés à South Florida sur la route connaître une solide performance de Bowett. Très honnêtement. Oui, ils ont réussi à gagner ça par la marque de 17-3, mais Bama avait l'opportunité de se rebâtir, en fait, après leur défaite de la semaine passée, donc de rebâtir leur confiance, en fait, contre South Florida, qui, soit dit en passant, South Florida a seulement 5 victoires depuis la saison 2020-2021. Ça fait juste 5 victoires qu'ils ont depuis... au moins 3 ans. Puis Bama était favori par 34 points. Donc de là vient un peu ma déception au niveau du score de 17-3. Ils sont arrivés terriblement à court là, de leur objectif à ce moment-ci de rebâtir leur confiance. Le point le plus important, puis il faut le mentionner, j'en ai parlé la semaine passée, mais là, la O-line est de pire en pire. C'était supposé être la meilleure unité sur le terrain pour aider l'équipe, pour aider Alabama à remporter des matchs. Mais c'est tout le contraire. Ils sont lents, ils sont faibles, ils sont soft même. En 3 matchs, ils ont accordé 12 sacs du corps. Ce qui était supposé être leur plus grande force, c'était leur gabarit. C'était supposé être des grands bonhommes, des bonhommes qui allaient être très physiques, très forts, des shapes monstrueuses, on pourrait même dire. Mais à la fin de la journée, présentement, on dirait qu'ils sont en retard. On dirait qu'ils ont la demi-seconde de retard. Quand il y a des D-lines qui sont moindrement rapides, les gars ne sont pas assez rapides pour les prendre. Donc, à la fin de la journée, les running backs se font le premier contact qu'ils reçoivent, c'est dans le backfield. Le QB, il voit des fantômes partout. Ils ont peur dans leur pochette. On va en parler un peu plus tard, là, justement, des linebackers. À ce niveau-là. Le jeu au sol, c'est enfin dégourdi au niveau de Bama, donc on peut être content pour ça. Rondell Williams et Chase McLennan ont couru pour 203 verges combinées. Donc, eux ont bien couru, malgré le fait qu'ils sont derrière une O-line un peu misérable, on pourrait dire. On parlait des QB un peu avant. Là, présentement, ça a été vraiment un shit show en bon français. Là. Ils ont décidé de bencher Jalen Milroe. Sabine a décidé de le bencher pour donner les commandes à Tyler Buckner. Puis il a complètement manqué sa chance à ce niveau-là. Sabine s'en est remis à Ty Simpson en deuxième demi qui a eu les meilleurs flashs des deux QB, très honnêtement. Donc, à la fin du match, Ty Simpson, il a commencé avec quelques passes incomplètes, mais il a fini le match avec 5 passes complétées de suite. Puis des bons gains pour être capable d'aller clouer le cercueil là, à ce moment-là de cette partie-là avec un touché au quatrième quart. Donc, Il y a eu un petit réveil au niveau défensif. Ils ont accordé seulement 3 points à South Florida. L'idée, surtout, c'était d'être capable de produire des choses. Donc, la semaine passée, il n'y avait eu aucun sac, aucun turnover. Cette semaine, ils ont réussi à produire beaucoup plus. La charge défensive a été menée par Dallas Turner. On attendait, lui, son réveil depuis le début de l'année. Il n'avait connu aucun sac en 2 games. Il y en a eu 2.5 cette semaine, un force fumble. Puis, au final, l'unité défensive au complet a limité South Florida à 3.8 yards per carry. Donc, la course au sol, la défense contre la course au sol, pardon, a été très efficace à ce moment-là. Ce qui m'a le plus inquiété dans tout ça, bon, la situation des QB, c'est une chose. La situation des O-line, c'est une chose. Le pauvre rendement offensif, c'est une autre affaire. Par contre, à la fin du match, Saban a semblé étonnamment positif par la performance de son équipe. Il était comme, ben, on est fier, on a gagné. Il était fier de son équipe, de la façon qu'il s'en était sorti. Moi, j'étais comme, comment tu peux être fier de ça, là? Je l'ai dit, là, South Florida, là, ont gagné 5 matchs depuis 2020-2021, là. C'est inacceptable d'offrir une performance OK contre cette équipe-là, là. Tu étais supposé être favori par 34 points. T'en marques à peine 17. Là. Donc, c'était catastrophique à ce moment-là.
Faire, à quel point que la quantité de pluie qui tombait à South Florida peut avoir un impact sur le match en général? On s'attend là, à ce que le jeu aérien va être beaucoup moins bon. La défensive, comme tu l'as dit, ont été excellents pour stopper l'attaque au sol de South Florida. Mais à quel point tu te dis, OK, on a gagné 17-3, mais si les conditions avaient été optimales, on aurait probablement gagné le match 42-3. Tu penses que ça a un impact aussi dramatique que ça? Ou du football de haut niveau comme ça, ça devrait pas avoir autant d'impact?
Ben, c'est sûr qu'il y a un impact à la fin de la journée. On a vu des passes imprécises, on a vu des receveurs échapper des ballons qui étaient dans leur range en tant que tel. Par contre, si ton jeu au sol, je l'ai dit tantôt, si la O-line avait été plus performante, on aurait pu plus courir mieux. Ben pas mieux. On a bien couru, mais on aurait pu courir plus souvent, en fait. Donc, en courant plus souvent, tu aurais pu garder le ballon pendant de plus longues séries puis être capable de marquer des points à la fin de ces séries-là. Mais souvent, les séries finissaient par des punts. C'est sûr que ça va impacter le score final. Là. On l'a vu, le score final était bas. Par contre, je m'attendais à ce que Bama montre des meilleurs flashs côté sur le terrain en tant que tel, à des positions clés comme la O-line, là, je répète souvent, puis c'est dommage que Dion ne soit pas là à chaque semaine pour nous en parler, lui qui est un gourou de la O-line, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. Il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas au niveau de la mentalité. T'sais. Que Saban soit fier de ce match-là, que Saban soit... T'sais, gagner 17-13 sur la route là, dans un match tight de la SEC contre Georgia, mettons, c'est acceptable, mais gagner 13-3 comme vraiment une mauvaise équipe, là, du Power 5, là, en fait. Là. Comment tu peux, qui n'est même pas dans Power 5, en fait, tu peux pas te dire fier de cette performance-là. Tu sais, je veux bien que tu essaies de protéger tes joueurs, sauf que je peux pas croire que c'est ça rendu le nouveau standard à Alabama. Tu sais, le standard dit, ah, ben si on réussit à gagner, ben tant mieux, on a réussi à gagner, puis ça sera ça. Tu sais. Fait que moi, c'est là que je décroche, mais c'est là que je me questionne plus. La température n'a jamais été amenée comme sujet à la fin, dire, ah, tu sais, c'est un match tough parce qu'il faisait. C'est un match qui était juste. Je sais pas comment le dire, minable à un certain moment. Donc là, c'est le stretch des matchs de la SEC qui commence pour Alabama, qui sont en dehors du top 10 pour la première fois depuis 2015. D'après moi, ça sera pas de tout repos là, des prochains matchs, là, qu'il y ait de la pluie ou pas là, à ce moment-là.
Surtout début novembre.
Oui, exactement. Wallet, si tu veux me parler de Washington, 8e au pays, qui ont gagné ça contre justement Michigan State par la marque de 41-7. Est-ce que le coach en chef qui n'était pas là a eu un impact sur ce match-là?
Ben non, puis c'était une des raisons pour lesquelles je voulais porter un peu attention à ce match-là. Je me disais, OK, Michigan State, leur instructeur-chef à l'époque, était suspendu. On se doutait qu'il était pour être congédié. Quelle sorte de performance qu'on allait donner? Puis ça a été vraiment une performance minable pour les Spartans. Faut dire que Washington sont pas piqués des verres. Grosse performance des Huskies sur la route, comme que tu viens de dire, 41-7. Michael Penix, encore une fois, toute une sortie pour lui. Il est 27-35 dans ce match-là pour près de 475 verges, puis 4 touchés. C'est vraiment le réveil de Michael Penix depuis qu'il a fait le transfert entre Indiana puis Washington. C'est pas du jamais vu, mais c'est digne de qu'est-ce qu'on a pu voir comme... quasiment aussi là, notoire qu'un Joe Burrow qui quitte Ohio State après avoir rien fait puis devenir une légende à LSU. La défensive de Washington contre le jeu au sol a été dominante. On limite les Spartans à seulement 53 verges au sol, ce qui est assez remarquable au college football en général. Je parlais de Michael Penix, mais il faut aussi que je parle de sa cible de choix. C'est un gars qu'on a parlé beaucoup l'an dernier, puis il revient cette année. Rome Odunze, qui a été sa cible de choix. Il lui termine le match avec 180 verges, 8 attrapés de capté. Vraiment, là, les Huskies ont un beau noyau de receveurs avec Jalen Polk, puis Jalen McMillan. Vraiment, là, c'est un trio. Puis tu rajoutes ça avec la présence de Michael Penix. Je dis son nom souvent, mais il était beau à voir dans le match. J'en parlais tantôt, le rebuild de Michigan State va peut-être être long. J'ai hâte de voir quel move qu'on va faire, mais je pense que ça va prendre un move majeur au poste d'instructeur-chef. Puis, il va falloir qu'on soit prêt à faire le ménage, recruter des joueurs qui sont prêts à compétitionner. Parce que, oui, Washington State, pour l'instant, c'est une équipe de la Pac-12, mais c'est une équipe qui joint la Big Ten l'an prochain. Donc, la conférence de Big Ten, ça ne sera pas facile. Tu as des gros programmes comme Oregon, Washington, UCLA, USC qui se rajoutent à une conférence qui est déjà assez stackée avec Ohio State, Penn State et Michigan. Donc, Michigan State, qui est une des bonnes équipes de cette division-là, cette conférence-là, se doit là, de remplir un peu leur banc avec des joueurs de qualité. Puis la transition va être intéressante à suivre dans les prochaines mois.
Petite question pour toi pendant que tu parles de Washington. Il y a Mathieu dans le chat qui demande est-ce que Penix a les devants pour le Heisman jusqu'à présent avec ses performances semaine après semaine?
Écoute, le Heisman, on le dit souvent, puis on le dit en joke, mais c'est pas un joke, c'est vraiment une question de qui a les meilleures statistiques au pays pour une équipe qui gagne assez. Je pense qu'en ce moment, le Michael Penix est facilement dans le top 5 avec Shedeur Sanders, je pense à Quinn Ewers, je pense à Caleb Williams, puis potentiellement Jordan Travis à Florida State. Donc, ça serait mon top 5 en ce moment des carrières qui produisent beaucoup de stats dans des équipes qui gagnent des matchs.
Yes. Moi, je mets Bo Nix aussi dans la liste du top 5. Voilà, c'est dit.
Tu n'as pas le choix. La légende de Bo Nix est toujours en vie.
Est toujours vivante pour la 8e année consécutive. Je vais vous parler d'un autre match qui ça a brassé là, pour les équipes du top 4 en fin de semaine. Ça a brassé solide pour les équipes du top 4 en fin de semaine.
Ça n'a pas été facile.
Georgia, premier au pays, ont remporté ça 24-14 contre South Carolina chez eux, à Georgia, en fait, que c'était ce match-là. Donc, à la mi-temps, c'était 14-3 pour les Gamecocks. Solide performance en première demi de Spencer Rattler qui a réussi qui a quasiment connu une première demi parfaite. Là, il était 16-18 en première demi pour 152 verges. Malgré le fait qu'il avait perdu son meilleur wide receiver, là, son wide receiver numéro 1 s'est blessé au début de. Pendant la première drive, je pense, qui a mené un touché. Là. Ils ont ouvert le match avec une drive qui a mené un touché. Ils ont réussi à shutdown le jeu au sol de Georgia. Ils ont réussi à shutdown Bauer. C'est pas compliqué. Là. T'enlèves Bowers de l'équation. Là. Les receveurs de passe à Georgia, c'est pas des machines, c'est pas des gros noms, très honnêtement. Donc, le plan de match défensif des Gamecocks était quand même assez solide. Évidemment, ça s'est joué en deux temps parce que là, en deuxième demi, les bons vieux Dogs sont ressortis. Ils ont limité les Gamecocks à 0 petit point en deuxième demi. Au total, par la course, ils ont limité justement South Carolina à 53 verges, dont 35 par Spencer Rattler. Donc, c'est dire que le jeu au sol a été complètement inexistant avec 19 petites verges pour les vrais running backs de South Carolina. C'est dommage parce que c'est pas la première fois depuis le début de l'année que Georgia ils ont un début de match difficile. Ça fait déjà 3 semaines qu'à chaque début de match, c'est pas facile. Ça leur prend du temps à se mettre en marche, ça leur prend du temps à s'activer. Donc, j'ai vraiment peur pour eux. Ben, pas vraiment peur parce que leur calendrier, c'est un peu un walk in the park. Là. Mais quand ils vont arriver en fin de saison contre les meilleures équipes, en fait, ils affrontent aucune bonne équipe. C'est pitoyable. Bref, si jamais ils ont de la misère de même, rendus dans les playoffs contre des bonnes équipes, ils vont se faire chier d'en face. C'est ce que j'ai à dire là-dessus.
Ça sera pas mon flag de la semaine puisque j'en ai un autre meilleur, mais Shane Beamer, le coach de South Carolina, à la mi-temps, se fait demander par la fille de ESPN sur le terrain, « Hey, qu'est-ce que tu penses de la performance? » Puis il dit, « We're whooping their ass!
» Les bonne occasion de fermer ta gueule.
Ouais, les tables ont tourné de bord assez vite en deuxième demi.
Yes, exact. Donc, côté offensif, là, Carson Beck a lancé pour 269 verges, n'a pas connu d'interception parfaite, mais n'a pas non plus connu de passe de toucher. Il a pas marqué une passe de toucher. Donc, présentement, Georgia, ils ont de la misère à attaquer les zones profondes. Ils ont de la misère à se rendre, à faire des longs jeux. Donc, si on leur coupe leur jeu au sol, si on enlève Bowers de l'équation, d'après moi, il y a comme un genre de blueprint qui est en train de se dessiner sur comment battre Georgia. Puis, honnêtement, ce que je disais tantôt en me disant que j'allais m'inquiéter pour eux rendus en playoff, la vraie question, c'est savoir s'ils sont sloppy de même en début de game tout au long de la saison contre des équipes que c'est facile de les battre. Est-ce que ça va jouer contre eux ou ça va jouer pour eux? T'sais, à un moment donné, à force de battre des équipes que c'est trop facile de les battre, est-ce que les gars vont comme baisser justement leur standard? Est-ce que les gars vont diminuer leur niveau de jeu? C'est ce qui m'inquiète au niveau de Georgia parce que Beck, présentement, il n'est pas en train de tout casser dans la ligue. Les receveurs de passe non plus ne sont pas en train de tout casser. Donc, comment vous allez vous en sortir dans les moments cruciaux? Est-ce que vous avez un gars qui va step up? Est-ce que vous avez un gars qui va s'en sortir? Je comprends que tout est sur les épaules de Brock Bowers, là, le tight end, sauf qu'à un moment donné, y a-t-il quelqu'un d'autre qui va faire quelque chose? Dejan Edwards, il a bien couru dans la victoire là, pour 118 verges plus un touché, mais ça va leur prendre plus d'adversité, j'ai l'impression, pour apprendre à stepper up leur jeu. C'est ce qui me fait peur présentement là, de ce côté-là. Je comprends que le wide receiver 1 est encore blessé. Par contre, t'es supposé être la meilleure équipe au pays. T'es pas supposé avoir de la misère à battre les Gamecocks, je pense. Donc, tout tard, ça pourrait finir par leur coûter cher. Wallet, parle-moi de Florida qui ont gagné ça 29 à 16 sur Tennessee. Tennessee qui était 11e au pays, puis Florida qui était non-ranké.
Ouais, puis Florida, on s'en rappelle, là, ils avaient perdu leur premier match de la saison sur la route contre Utah. C'était fait quand même humilié. Donc, on se disait, est-ce que Tennessee vont être enfin capables de gagner un match sur la route à Florida? Parce qu'il faut se le rappeler, leur dernière victoire dans le Swamp était en 2003. Et non, les Volunteers sont incapables de closer ça. Ils sont incapables de remporter un match contre les Gators. Malgré le fait, comme que j'ai dit, que les Gators semble, puis on se trompe peut-être, là, peut-être une overreaction de la semaine 1, mais semble être un petit peu moins dominant qu'on l'aurait pensé. Joe Milton, le nouveau corps arrière de Tennessee, connaît tout plein de difficultés. Puis j'ai l'impression que l'espèce d'histoire de rêve qu'on a vu, l'espèce d'histoire Cendrillon 2022 avec Josh Heupel, puis le corps arrière partant qu'on avait à l'époque, je pense que ce conte de fées-là est non seulement terminé, mais Tennessee redevient, selon moi, une équipe de milieu de peloton dans la SEC. Joe Milton est, selon moi, pas un très, très bon corps arrière. Oui, il est capable de lancer des ballons à 80 verges en avant de lui, mais il est tellement imprécis que son jeu, il n'est pas spécial, puis il n'y a aucun receveur qui semble vraiment retirer l'épingle de son jeu. Pour ce qui est des Gators, on va parler d'eux un petit peu plus, c'est eux qui ont connu un bon match. Il faut que je parle de leur offensive au sol. L'offensive au sol menée par Trevor Etienne, le petit frère de l'autre, le petit frère de Travis Etienne, termine le match avec 172 verges, un touché. Les Gators ont vraiment un bon one-two punch, au niveau de leur attaque au sol avec Etienne, mais aussi Montrell Johnson. Je pense que c'est ça qui va faire la différence pour eux cette année parce que leur carrière partant, Graham Mertz, fait de belles choses, mais rien d'exceptionnel. Ils terminent le match avec seulement 166 verges, puis une visite dans la zone payante. Donc, ça va être vraiment au niveau de l'attaque au sol. C'est comme du bon vieux power football pour les Gators de la Floride. On court le ballon d'en face, puis notre défensive est capable de t'arrêter puis de donner le moins possible. Donc, la question que je me pose, Fav, c'est est-ce que les Gators, c'est notre seule chance de voir les Bulldogs de Georgia perdre un match en saison régulière cette année? Potentiellement, mais j'ai l'impression, comme que tu l'as dit, l'horreur des Bulldogs est tellement facile là, que ça va se régler facilement pour eux. Là. Mais chapeau aux Gators, on les pensait finis après la semaine 1. Puis, est-ce qu'on va être capable de bâtir là-dessus? Je le souhaite, parce que c'est quand même un programme tu as besoin d'avoir un Florida, tu as besoin d'avoir un Tennessee qui compétitionne année après année contre Georgia, parce que, comme tu le dis, c'est un peu plate de voir Georgia qui n'ont pas vraiment d'opposition cette année encore, là, malheureusement.
Trevor Etienne, c'est le petit frère de l'autre.
Ouais, c'est le petit frère de Travis.
All right. Effectivement, c'est, ça a été une belle victoire pour Floride. Ça leur a même valu une place dans le top 25. Là. On va en parler un peu plus tard parce que, justement, ça m'intéresse tout ça. Je parlais tantôt que les équipes du top 4 avaient eu de la difficulté. Les Seminoles de Florida State ont réussi à remporter le match 31-29 contre Boston College. Florida State qui était troisième au pays. Donc, on a survécu à un énorme potentiel d'upset sur la route contre Boston College. Les Noles étaient favoris par 25 points, comme je disais tantôt. Bama était favori par 34, ils ont eu de la misère. Là, les Florida State étaient favoris par 25 points, ils ont gagné par 3 petits points seulement. On a donné l'impression de ne pas être préparé dès le début du match. Boston College a commencé le match directement sur deux busted coverage. Ils ont réussi à lancer des passes de plus de 30 verges, marqué sa première possession. Puis Florida State ont réussi à prendre un avance juste avant la mi-temps de 17 à 10. Pardon. Puis en revenant de la mi-temps, ils ont marqué deux touchés, ce qui a sauvé un peu la mise parce que ça a amené le score à 31-19. Mais Boston College n'ont pas baissé les bras. Les Eagles de Boston College ont réussi à marquer 19 points consécutifs sans réplique. Puis honnêtement, c'était une comédie d'erreur pour Florida State. Donc, ils ont commencé le match, ils avaient l'air d'être pas préparés, ils avaient l'air d'être pas dans leur game, ils avaient l'air d'être pas focus. Puis après ça, ils ont commis des erreurs inacceptables. Après avoir scoré justement deux touchés rapides, ils ont fait un genre de squib kick un peu court, Boston College, puis le retourneur a complètement moffé son... Il y avait juste une chose à faire. Tu te pitches sur le ballon, puis tu sécurises le ballon. Il s'est ramassé tout croche. Il a fini par perdre possession du ballon. Boston College en a profité pour marquer des points. Donc, offensivement, le running back de Florida State, Trey Benson, n'arrive pas à avoir le dynamisme qu'on lui connaissait. En fin d'année passée, Trey Benson, il était vraiment un coureur vraiment explosif. C'était vraiment impressionnant de le voir courir sur le terrain. Puis, dans ce match-là, il a couru 12 fois pour 38 petites verges. Donc, c'est vraiment pas le coureur qu'on a connu. Si les Noles veulent contrôler justement les longues, plus longues possessions, il faut donner soit plus le ballon à Rodney Hill, qui a semblé dans ce match-là vraiment plus dynamique que Trey Benson. Donc, il y a peut-être une petite question à se poser au poste des running backs là, pour Florida State. Est-ce qu'on partage plus le load de travail ou on enlève vraiment du load de travail à Trey Benson qui n'arrive pas à avoir ce... Je ne sais pas s'il est blessé, je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier. Je n'ai pas trouvé de nouvelles à ce sujet-là, mais c'est vraiment ça qui a fait le plus mal à Florida State. Donc, la chute justement de l'attaque de Florida State puis le retour de Boston College met en lumière certaines problématiques au niveau de Florida State. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là précisément? Est-ce que Jordan Travis, tantôt que tu parlais comme étant un contender au Heisman, a connu une performance correcte, 15 en 24, a vraiment eu beaucoup de manque de complétion, semblait être pas sur la même page que ses receveurs de passe. Il y avait souvent des choses qui se passaient. Ils ont connu des bons flashs quand même. Le Johnny Wilson a attrapé 4 ballons pour 105 verges. C'était quand même assez beau de le voir aller sur des longs jeux. Au niveau de la course, ils ont connu, comme je disais tantôt, un manque assez important de dynamisme à ce niveau-là. Donc, s'ils veulent vraiment se positionner comme étant une équipe du top 4 puis arriver pour affronter Georgia qui ont des tranchées quand même impitoyables, on va se le dire, il va falloir que les Noles se réveillent au niveau de la course au sol. Au niveau de Boston College, c'est une équipe que, très honnêtement, je ne regarde pas très souvent jouer, mais Thomas Castellano, le QB, 20 en 33 pour 305 verges, un touché, une interception. J'ai aimé voir le jeune homme lancer. C'est aussi lui qui a couru beaucoup. C'est lui qui a été le meilleur porteur de ballon pour son équipe avec 95 verges, dont un pour un toucher en fin de match là, pour augmenter le score. Donc, j'ai vraiment aimé sa prestance à Castellano. Je ne l'avais jamais entendu parler, pour être bien honnête, puis je n'avais jamais regardé sur lui, mais c'est un petit bonhomme, 5 pieds 10, 196 livres, n'a pas le format pour nécessairement se rendre dans la grosse ligue puis jouer dimanche. Par contre, intéressant de le voir jouer là, pendant ses années dans la NCAA, quand même assez intéressant. On va continuer le wrap-up avec un call qui avait été fait par Wallet la semaine passée. Il faut remettre à César ce qui appartient à César. Tu avais callé l'upset. Missouri ont gagné ça 30-27 contre Kansas State. Kansas State qui était 15e au pays à ce moment-là. C'était un match divertissant, parle-moi-en.
Effectivement, Faf, c'est un match non seulement divertissant, mais c'est un match qui était intéressant. On a vu de belles séquences offensives des deux équipes tout le long du match. Kansas State, dans la défaite, nous montre quand même de belles choses avec une attaque aérienne qui est complète. Combiné avec une attaque aérienne là, qui n'est pas piqué des verres. Will Howard, le carrière partant de Kansas State, termine le match avec 270 verges, 3 touchés. Malheureusement, il y a eu une interception qui va avoir été coûteuse pour eux. Au final, c'est pas ça qui les a coulés, mais c'est un match d'erreur parfois, puis c'est cette petite erreur-là qui aura fait la différence. Du côté des Tigers de Missouri, leur carrière de troisième année, Brady Cook, connaît une sortie assez incroyable. On parle ici de plus de 350 verges pour 2 touchés, mais on le dit pas souvent à Faf. Mais le jeu, le joueur, le ballon du match revient à nul autre qu'un batteur. Les fameux batteurs qu'on aime bien. Harrison Mavis termine le match, le dernier jeu du match, dans un moment critique, un botté de 61 verges. C'est pas du jamais vu, là, mais c'est assez rare dans le college football que les batteurs réussissent des bottés d'aussi loin. Donc, chapeau à lui. C'est ce qui a fait la différence. Comme je viens de dire, ça a été le dernier jeu du match. Puis on a eu un bon vieux rushing the field après ça des partisans parce qu'on venait de battre une équipe classée dans le top 15. Donc, Missouri, avec un upset, sont maintenant 3-0. Je parlais tantôt, genre Tennessee sont moins bons, Florida sont corrects. Qui peut battre Georgia? Est-ce que Missouri pourrait battre Georgia? On le sait, l'an dernier, les Tigers s'étaient déplacés en Georgie pour affronter les Bulldogs. Ils les avaient quasiment battus sur la route. Cette année, le match est à la maison. Donc, il y a des chances là, que le duel entre Georgia puis Missouri soit intriguant cette année. J'essaie là, rapidement de regarder leur horaire. Puis, le match est... le 4 novembre. Donc, on a encore un mois. Ça ne sera pas un mois facile là, pour les Tigers alors qu'on affronte LSU, Kentucky, puis South Carolina back-to-back-to-back. Mais quand même, ils ont bâti de belles choses au Missouri. Puis ça va être une équipe qui va être intéressante à suivre d'ici la fin de la saison.
Yes, parfait. On va maintenant parler du match de la fin de semaine, le match le plus enlevant qu'il y a eu, qui a duré plus de 5 heures de temps. On va faire ça en deux temps parce que c'est pas compliqué. Moi, j'ai écouté le début, puis je suis tombé endormi avant la fin du match. Fait quoi, là, t'as fini ce match-là? Évidemment, on veut vous parler du match Colorado State contre Colorado. Colorado qui était... il était combien-tième? Il était 18e au pays à l'époque. Ils ont gagné ça 43-34 en deuxième prolongation. Un match assez fou, très honnêtement. Justement, comme je disais, ça a duré plus de 5 heures. Donc, le match a commencé là, en force des deux côtés. Vraiment, ça répliquait. Colorado State était très physique, était très agressif. On met beaucoup de pression sur Sanders, qui a eu de la difficulté en début de match à prendre son rythme, à prendre son élan en tant que tel. Je vais répéter encore, le point faible de Colorado, puis ce qui va leur coûter cher sur le long run, c'est... Premièrement, le jeu au sol. Deuxièmement, être capable de protéger le QB dans la pochette. Sanders a subi 1, 2, 3, 4, 4 sacs du corps au total. Il a même souvent été pressé, hurried, sous pression. Puis, on a connu au début du match Travis Hunter qui s'est fait dévisser sur le sideline sur un jeu, le safety, qui avait une mission très claire en tête qui était de faire mal, de punir Travis Hunter, quitte à ce que ça coûte 15 verges. Puis, honnêtement, ça a été payant pour Colorado State, cette pénalité-là, parce que Hunter, il est sorti de la game, il n'est pas retourné en offensive, a joué quelques snaps en défensive, donc... À la fin de la journée, Travis Hunter n'a pas été une menace. 2 réceptions, 21 verges. Donc, on se rend compte que jouer both ways, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça l'a parlé aussi dans les médias après. Mais on s'est rendu compte que Sanders était tellement bon qu'il pouvait faire bien paraître ses receveurs de passe, surtout en début de match. Xavier Weaver a connu une solide performance. De ton côté, tout ce qu'il y avait rapport en deuxième demi, Wallet, plus la prolongation, raconte-moi cette histoire-là.
Oh, mais écoute, premièrement, le chapeau à Colorado State qui sont restés dans le match. Les Buffaloes étaient favoris, je pense, par 3 touchés avant ce duel-là. Puis, faut donner là, des fleurs à Braden Fowler Nicole aussi, le corps arrière des Rams. Termine le match avec 367 verges, 3 touchés, mais malheureusement pour lui, 3 interceptions, incluant le pick 6 contre Shiloh Sanders, l'autre fils de Deion Sanders qui joue en défensive. Par contre, le meilleur joueur là, du côté des Rams a été, selon moi, Troy Horton, le numéro 14 de l'équipe. Tout simplement incroyable dans ce match-là. À des moments clés, fait des grosses passes, attrape de grosses passes pardon, au milieu du terrain. Il n'a pas peur d'aller dans le trafic. Il termine le match avec 133 verges, puis une visite dans la zone des buts. Je le dis, Faf, Troy Horton, c'est pas un gars que j'avais sur ma liste de bingo pour le prochain repêchage de la NFL, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le genre de joueur, là, un genre de receveur de passe qui va gagner à se faire connaître dans les prochains mois. Je serais pas surpris qu'on voit ce gars-là sortir en troisième ou quatrième ronde du prochain repêchage, puis qu'il y ait quand même un impact important là, dans une équipe de la NFL très tôt. Comme tu l'as dit, ça s'est terminé en prolongation. Deuxième période de prolongation, 43-35. Je pense que le match, il y a eu plusieurs moments forts, mais qu'est-ce qui a vraiment fait mal pour Colorado State en prolongation, c'est les deux punitions de Mohamed Camara, qui a deux unnecessary roughness, des rudesses non nécessaires de 15 verges chaque fois, ce qui a coulé son équipe. C'est ça, au final, là, qui a fait mal aux Rams.
Il avait connu
un match incroyable.
Il avait fait des bons sacs du corps, il avait mis des bonnes pressions.
Oui, il était dans le backfield, il a terminé le match avec 5 plaqués, 2 sacs du corps, 2 plaqués pour des pertes. Vraiment, il est un joueur défensif très dominant. Puis du moment qu'il a été mis dehors, parce qu'il y a eu un targeting contre Shader Sanders, puis il a été mis dehors à cause de ça. J'ai quelques questions, j'ai des takeaways de ce match-là, puis on peut en parler. Premièrement, pour Colorado, Shader Sanders, tu l'as dit, il n'y a aucune ligne offensive devant lui, il y a des receveurs à mâcher. Il est quand même assez exceptionnel selon moi. T'sais, autant que je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux, dire c'est un talent NFL. S'il continue à jouer comme ça avec pas plus de protection puis qu'il reste en santé, ben il y a une équipe NFL qui vont se tourner les yeux vers lui, qui vont dire ah, faut qu'on analyse ce gars-là.
Ben,
il fait de belles choses avec
lui. Un comparatif que je trouve intéressant quand tu regardes le box score de ce match-là, c'est que du côté de Colorado State, là, il y a 3 receveurs qui ont eu plus de 100 verges de réception. Donc, Torin Horton, que tu parlais tantôt, Lewis Brown de Fort, il y en a eu 131, puis Dallin Holker, il y en a eu 109. Donc, il y a 3 gars qui ont connu des grosses performances pour un total de 397 verges à 3. Là, t'sais. Donc, on voit que le firepower de Colorado State est concentré sur 3 bonhommes précisément. Sur Colorado, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la distribution du ballon de Sanders est bonne. Il a lancé 9 fois un gars, 7 fois un autre gars, 7 fois un autre gars, 5 fois un autre gars, 6 fois un autre gars. Donc, il distribue le ballon au travers 7 receveurs, 8 receveurs pendant toute la game. Donc, effectivement, tu parles d'un gars qui a un talent NFL, mais moi, ça me laisse penser que ce gars-là se rend jusqu'à sa 3e lecture, se rend jusqu'à sa 2e lecture sur la majorité de ses jeux, puis il va prendre la lecture qui est ouverte, il va prendre ce qui est disponible. Il va pas juste lancer à son receveur numéro 1, puis que son receveur numéro 1 finisse avec 300 verges, par exemple. Donc, effectivement, c'est des skills qui, pour moi, se montre intéressant pour le prochain niveau, personnellement.
C'est bon. Puis, écoute, les autres questions, ben, il y en a une, tu as répondu un peu, là, c'est la blessure de Travis Hunter, est-ce que c'est la fin du 2-ways? Je pense que oui. Là, ça va être intéressant de voir est-ce qu'on veut l'utiliser plus en offensive ou en défensive. Moi, j'ai l'impression qu'il est meilleur receveur. C'est ce que j'ai pu voir. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi à ce niveau-là.
Ben, moi, je pense que, en sachant que présentement, les receveurs Weaver, Harrison, Horn Jr., Dawson sont capables de livrer la marchandise, moi, je me concentrais pour le garder défensivement parce que je viens de le dire, du côté de Colorado State, ils ont réussi à lancer Braden Fowler Nicolosi a lancé pour 367 verges. Quand tu vas arriver contre des Bo Nix de ce monde, puis tu vas arriver contre des Dylan Gabriel de ce monde, puis je sais pas trop qui, là, tu peux pas laisser l'autre équipe lancer 500 verges. Là. Fait qu'il faut que Hunter joue défensivement pour aider cette unité défensive-là qui... seul sur papier a l'air d'en arracher présentement.
Puis finalement, la dernière question, c'est plus une interrogation par rapport à son style de de parents, c'est est-ce que Deion Sanders veut protéger son gars? C'est bien beau, tout ce qu'il y a de flashy, aller chercher des receveurs de passe, aller chercher des demi-de-coin, des tight ends, mais aller chercher un peu de viande sur la ligne offensive, je pense que ça ferait beaucoup de bien à Shaders parce que, tabarouette, comme tu l'as dit, il se fait malmener durant un match. Tu peux pas jouer 12 matchs de football comme ça puis te faire frapper autant puis rester en santé. Tout ou tard, ça va avoir un impact là, sur tes performances, selon moi.
Ben, c'est clair. Puis on a eu la discussion dans le groupe de Spalucid avec Brochu. Puis toi, vous en avez parlé. Vous êtes même un peu ostiné à ce sujet-là en disant ben, c'est bien beau, tu es un gars qui est flashy. Fait que tu attires des gars flashy, tu attires des divas. Tu attires des receveurs de passe qui sont expressifs, qui sont, oui, c'est des fiers compétiteurs, mais ça reste que c'est des petites princesses à quelques occasions. Tu vas attirer des skills players comme des demi-défensifs qui vont aussi être des petites princesses à quelques occasions. Puis Brochu, il soulignait un point super important. Il disait, t'en connais-tu bien gros des O-line qui sont divas dans la vie? Tu connais-tu vraiment des O-line qui sont superstars? Parce que... Chris, c'est bon show, là. Mais, effectivement. Mais, en fait, à la fin de la journée, c'est sûr que t'attireras pas ce genre de caractère-là. T'attireras pas, excuse-moi, des O-line qui ont ce genre de caractère-là. Parce que le but d'être un O-line dans la vie, c'est d'être humble, c'est de faire ta job, c'est de marcher en tant qu'unité, puis c'est d'être les cinq ensemble, toute l'équipe. Donc, c'est sûr que t'as pas de O-line qui sont esti des divas, là, ou très peu. Du moins, t'en veux pas dans ton équipe. Donc, effectivement, il va falloir que... Là, c'est beau, t'as mis une première équipe sur papier qui était cool, t'as eu 3 victoires, aucune défaite à date. Mettons que tu finis la saison avec 3 victoires, c'est déjà 2 plus que l'année passée. Fait qu'on est all good avec ça. Là. Mais là, oui, effectivement, il va falloir que ton processus de recrutement, parce que tu ne pourras pas passer par le transfer portal puis remplacer 50% de ton équipe à chaque année. Fait qu'il va falloir que son processus de recrutement, maintenant qu'il y a eu des victoires, va pouvoir attirer du monde qui vont vouloir gagner. Mais à court terme, au niveau de la O-line, c'est pas cher la livre, là, on va se le dire.
Effectivement.
All right. Oui, beau gosse. Merci, QT Café. on va continuer ça. Oh shit, j'étais pas prêt. On est déjà rendu là. Fuck, man. C'est qu'on est des machines. On a fait trop ça bien. Puis pour répondre à ta question. Tabarnak, ta gueule, tu. Pour répondre à ta question dans le pacing en passant, est-ce que c'est la fin du conte de fées pour Colorado? On va en parler plus tard avec...
Est-ce qu'on commence à être tanné par contre du conte de fées?
Ouais. Est-ce qu'on commence à être tanné? Ben, moi, je trouve que je sais pas, le gossip, il est bon, là. Deion est allé au College Game Day, là, puis il est allé faire son show puis toute la kit. T'sais, moi, je trouve ça divertissant. Je trouve ça intéressant. Mais effectivement, il va falloir qu'un moment donné...
Je te le dis, moi, ça me dérange pas. Il y a gros des gens que ça les dérange. Puis moi, au final, je me dis, il y a des gens en ce moment qui s'intéressent au college football à cause de ça. Puis quand il y a des gens qui s'intéressent au college football, ben, ça nous donne des auditeurs de plus sur notre podcast. Donc, continue d'être flashy.
Ben, tu dis ça juste parce que tu viens de t'acheter une paire de lunettes de sa brand à lui, puis tu veux que, mec, elle arrive en 2024, ça soit encore la mode.
Ouais, effectivement, je les attends. Ils rentrent à mi-décembre. Ça, c'est s'il n'y a pas de délire.
C'est ça. Sûr qu'ils vont avoir du délire. All right, on va continuer ça avec le segment Out of the Box pour cette semaine. Yes, donc segment out of the box pour cette semaine. On a eu 2 petites questions du public. On voulait prendre le temps d'y répondre avant de commencer avec un autre out of the box que j'ai rajouté en dernière minute. J'espère que tu es prête.
Oui.
T'as-tu les questions sur la main? T'es as-tu apporté de téléphone?
De Twitter, ça?
Oui, les questions de Twitter.
Moi, je les ai rajoutées dans le pacing si tu regardes un peu plus bas.
Ah, parfait. Jacob, qui est dans le chat, nous demande « Le ciel est bleu à Georgia et que tout roule bien. » Ben, qu'est-ce que t'en penses, toi, Wallet? Moi, j'ai donné mon opinion tantôt dans le
recap du match. J'ai aimé ton opinion parce que, comme tu as dit, la clé dans tout ça, c'est le manque de performance en offensive puis le manque d'options. Tu peux pas juste... Oui, Brock Bowers est un athlète exceptionnel, mais tu peux pas juste te fier là-dessus. Tu peux pas aussi non plus te fier à ta défensive parce que n'est pas aussi dominante que les 2 dernières années. Donc, vous pouvez bénir le ciel que le ciel est bleu et que l'orage soit facile. Parce que j'ai l'impression que Georgia affronterait une ou deux équipes un peu plus compétentes, puis ça serait un différent son de cloche. Donc, le ciel est bleu, la mer est calme, mais et reste calme parce que vous êtes chanceux d'avoir un horaire facile.
Yes. De l'autre côté, Benji, qui est bien hype par la victoire de ses Gators, justement, pense que les Gators pourraient surprendre Georgia. On va-tu jusqu'à cette long shot-là?
Écoute, moi, je pense que c'est une long shot, mais il n'y a rien d'impossible. Puis c'est un match qui est joué, on se rappellera, sur un terrain neutre. Donc, le match qui est joué la fin de semaine, juste avant l'Halloween, le 28 octobre prochain, ça va être intéressant à voir. Comme j'ai dit, Florida m'ont surpris dans ce match-là. Et Georgia ont une très bonne équipe. Ils ont encore de très, très bons joueurs. Mais comme tu as dit, si on commence le début de match lentement, puis on n'est pas capable de s'ajuster, puis que les Gators sont capables de courir le ballon, de garder le ballon le plus longtemps possible, contrôler la possession de temps, c'est pas impossible, mais ça va être difficile. Donc, j'aime le positif de l'ami Benji, mais ça ne sera pas le match le plus facile pour les Gators cette saison.
Effectivement. Qui en profite? Georgia, Texas, ça va, arrive l'an prochain. Ça va être la fin. Les marches dans le parc. Ouais, Martin Plot qui est bien content de son Texas, qui a eu toutes les misères du monde à gagner en fin de semaine. Sebridge qui nous demande si Colorado sera 2-2 dans deux semaines. Ben là, ils vont être 3-2 au moins.
C'est ça que j'allais répondre.
Mais
écoute, j'ai regardé l'horreur de Colorado, puis d'ici la fin de la saison, j'ai de la misère à voir comment Colorado vont faire un bowl. Puis j'exagère pas en disant ça. Cette semaine, on va en parler plus tard, ils affrontent Oregon. À Oregon, ça sera pas facile. Après ça, c'est contre les Trojans de USC. Ça va être une défaite. Par la suite, Arizona State, qui ne sont pas piqués des verts, jouent potentiellement une autre victoire. Donc, tu es rendu à 4 victoires. Par la suite, tu as Stanford, une autre victoire. Mais après ça, tu finis l'année avec une fin de saison assez incroyable à UCLA, contre Oregon State, contre Arizona, à Washington State et à Utah. Donc, si Dion est en mesure de terminer la saison avec une fiche de 6-6, ça va être chapeau selon moi. Oui, la balloune va avoir dégonflé, mais 6-6 après avoir été 1-11 l'année dernière, pardon, ça va être assez exceptionnel là, pour les Buffaloes.
Yes. Puis Jean-Michel Levasseur qui nous demande quelle équipe déçoit le plus depuis le début de la saison. Toi, c'est qui ton équipe qui te déçoit le plus?
Écoute, je suis pas encore prêt à vendre la peau de l'ours avec, ou je devrais dire la peau de l'éléphant avec Alabama, parce que tant que Nick Saban est là, oui, il y a un petit, on prend un pas par derrière, mais vraiment, ma déception, moi, c'est les Volunteers du Tennessee. Je m'attendais à ce que Joe Milton soit en mesure de exploser au Tennessee, être en mesure de connaître une saison un peu à l'image là, de Hendon Hookers qu'on avait vu l'an dernier, puis c'est vraiment pas le cas. Puis c'est plate parce que ça fait en sorte que les Bulldogs de la Georgie, vont probablement sauver avec la division de l'Est assez aisément. Puis les Volunteers étaient un peu mon espoir là, de changer la donne, puis de potentiellement battre les Bulldogs. Donc c'est eux ma déception. Je sais pas pour toi, Faf.
C'est sûr que j'aurais pas le choix de nommer Alabama à ce niveau-ci. Là, je veux dire, comme oui, une défaite peut faire mal, mais des contre-performances par-dessus contre-performances, le genre de carrousel de corps arrière qui est comme pas clair, qui est pas établi, qu'on en essaye un, deux games, ça fait pas, on en part un deuxième, ça fait pas, on est rendu à notre troisième QB déjà qui prend des snaps dans la saison, on est la troisième game in, comme OK, qu'est-ce qui se passe? Fait que, puis comme j'expliquais tantôt pendant mon résumé du match, le plus gros problème que j'ai, c'est les standards. Les standards semblent être « Ah, oh, on a gagné, fait que c'est correct. » Mais à Bama, ton standard, c'est pas de gagner. C'est tu gagnes 50-0 contre les programmes de piste ou tu as un stand-down jusqu'au dernier jeu du match puis ça finit genre 47-44. Est-ce que c'est le dernier field goal du match puis on est chill avec ça. C'est même dans la défaite, on est chill avec ça.
Oui, mais c'est vraiment intéressant parce que Nick Saban, c'est un gars qui est reconnu pour être assez fiery, là, qui a beaucoup d'explosivité durant les matchs, mais aussi lorsqu'on l'interroge à la fin d'un match. Puis je suis d'accord avec toi que le fait qu'ils disent « Ah, on est satisfait avec ça », c'est un peu à se poser des questions. J'aurais aimé ça voir quelle sorte de pratique qu'ils ont eu là, depuis le début de la semaine, parce que j'ai l'impression que ça ne doit pas être aussi beau une fois là, les portes fermées au niveau là, du Crimson Tide.
Ah, c'est clair, mais on dirait qu'il n'y a personne qui... tu sais, pendant la game, là, pendant le College Game Day, un moment donné, celui qui est à droite, là, je ne me rappelle jamais de son nom, là, mais il a dit quelque chose qui était super intéressant, tu sais. Puis il disait qu'à l'époque, à Alabama, là, t'avais pas peur.
Tu parles de Kirk Herbstreit.
Ouais, c'est ça. T'avais pas peur de Nick Saban. T'avais peur du vétéran qui était à ta position. Puis que si tu livrais pas la marchandise, c'est le vétéran qui allait aller te voir. Puis il allait dire: hey, comme tu step up ta game, le kid. T'es à Alabama ici. C'est de même ça fonctionne. C'est de même qu'on gagne. C'est de même. C'est ça la mentalité du programme. Fait que c'était pas Saban qui faisait peur aux joueurs. C'était les joueurs. C'était les vétérans qui faisaient peur aux recrues. Qui faisaient peur aux gars qui poussaient par en avant. Puis qui disaient: si tu veux être à cette hauteur-là, là, va falloir que tu te bottes le cul, mon chum. C'est de même que ça va se passer. Puis là, l'impression qu'on a présentement, c'est qu'il n'y a pas de vétérans qui se lèvent. Il n'y a pas de vétérans qui font peur à des recrues. Il y a comme une mentalité de juste comme: on est Alabama, OK, mais on ne sent pas cette férocité-là. On ne sent pas cette combativité-là qu'on connaissait à Alabama, en fait. Donc, je trouvais ça pertinent comme commentaire parce que c'est vrai qu'on peut voir ce genre de vibe-là qui pose pas sur le terrain. Donc, c'est là qu'on peut se dire: OK, il y a une problématique où il y a quelque chose qui est différent là, tu sais, de à Alabama. Donc, c'est-tu le niveau des standards? C'est-tu la façon que c'est coaché? C'est-tu, tu sais, je sais pas exactement. Puis, on a Mathieu Gagnon qui dit que sa déception personnelle pour le moment, depuis le début de la saison, c'est Drake May à North Carolina. Dire qu'au début de l'année, on le voyait deuxième QB choisi au draft. Ouais, puis on le voyait pour peut-être un Heisman winner puis toute l'équipe. Puis effectivement, c'est pas super facile dans son cas à lui. Mais on va en parler un peu plus tard de ce bonhomme-là. Bon, pour compléter le segment top 25, Wallet, semaine après semaine, tu le sais, au début de l'année, on a fait un gros exercice sur le fameux top 25 du Associated Press. Puis cette semaine, le top 25 du Associated Press est sorti, puis à plein d'égards, on m'a fait sourciller. Fait que je voulais avoir ton avis là-dessus, bon vieux segment out of the box, à savoir, présentement, Alabama sont en 13e position. On l'a dit tantôt, c'est la première fois depuis 2015 qu'ils sortent du top 10. Ils sont en 13e position, là. Ils sont en 13e position avec 2 victoires, 1 défaite, puis des performances pas super sharp depuis le début de la saison. Malgré ça, ils sont devant Oregon State, Ole Miss, Oklahoma, North Carolina, justement, 12 à la limite. Est-ce que tu penses que Bama sont trop hauts en 13e position?
C'est sûr qu'il va toujours avoir un petit peu de... En anglais, on dit bias, là, on va être un petit peu... On va toujours avoir, donner un avantage à une équipe qui a connu beaucoup de succès dans les dernières années. Puis je prends l'exemple de Clemson qui ont eu quelques années un peu en montagne russe. Tu vois, ils ont perdu un match, puis ils sont hors du top 25, malgré le fait là, qu'on a remporté nos 2 derniers matchs de façon convaincante pour eux. Donc, Alabama sont 2-1. Une défaite, mais une défaite contre une équipe qu'on classe 3e au pays. Donc, je pense que c'est ça un peu qui leur sauve le visage, c'est le fait que Texas sont classés aussi haut. Mais on ne sait pas de cachette. Si Alabama venait qu'à échapper un autre match durant la saison, il chuterait encore plus bas. Donc, c'est pas... Est-ce que c'est un peu haut potentiellement? Mais la beauté de l'exercice, c'est qu'Alabama évolue dans une division qui est relativement pas facile. S'il venait qu'à l'échapper contre Ole Miss, s'il l'échappait contre Texas A&M, une des équipes de Auburn, Alabama, LSU, c'est sûr qu'ils vont chuter. Puis je pense que là, ils sont juste avantagés par leur nom. Puis ça va toujours faire partie là, du folklore college football, malheureusement.
Au moins pour quelques années encore. Parlant du top 25 encore, pourquoi North Carolina est si bas? On en parlait tantôt. Là, on parlait de Drake May, qui est une déception pour Mathieu. Je suis allé voir statistiquement parlant. May complète quand même 72% de ses passes, a quand même presque de 900 verges en 3 parties. 4 passes de toucher. C'est là que c'est un petit peu plus faible au niveau du nombre de passes de toucher. Il a aussi lancé 4 interceptions. Mais par contre, ça reste quand même que présentement, North Carolina ont des meilleurs. Ils ont un meilleur résumé que, par exemple, Oklahoma, justement. Ils ont des meilleures victoires que Ole Miss, ont des meilleures victoires que Oregon State. Pourquoi ils se retrouvent en 17e position en dessous de ces 3 programmes-là, par exemple?
Ben écoute, dans le cas d'Ole Miss, je pense que le fait que Ole Miss ait battu sur la route Tulane, qui était classé dans le top 25, puis Oklahoma qui ont remporté sur la route contre SMU, qui, eux, n'étaient pas dans le top 25. C'est peut-être les deux matchs que je peux voir pourquoi que eux sont classés plus haut. Par contre, Oregon State, leur plus grosse victoire depuis le début de l'année, c'est contre San Diego State. Donc, j'ai vraiment aucune idée pourquoi ils sont plus haut. Mais c'est le genre de truc qui s'ajuste. Hein. Cette semaine, Oregon State affronte les Cougars de Washington State. S'ils remportent ce match-là, ils vont grimper de peut-être deux ou trois rangs, mais vont justifier pourquoi ils étaient aussi hauts. S'ils perdent, ben, tu vas voir le switch, tu vas voir Washington State qui vont probablement monter dans le top 15, puis Oregon State qui vont chuter entre la 20e et 25e place. Donc, pourquoi North Carolina est aussi bas? Ben, je pense que c'est peut-être juste la manière qu'ils ont gagné leur match. C'est peut-être pas de façon aussi convaincante qu'on aurait voulu le voir, puis c'est la seule explication logique là, que je peux voir en ce moment.
All right. Prochaine question. Pourquoi présentement Missouri n'est pas dans le top 25? Ils ont battu l'équipe qui est en 15e position la semaine passée. Par contre, ils se retrouvent toujours pas dans le top 25. On sait que Kansas State, eux autres, sont disparus du top 25 là, de façon assez drastique. Là. Ils ont passé de 15e à en dehors du top 25. Pourquoi Missouri n'a pas rentré dans le top 25?
Mais c'est quand même intéressant quand on commence à analyser ça, parce que c'est un peu une question de points. Puis c'est un peu ça que nous aussi, on fait là, quand on fait notre top 12 maison. On vote, puis moi, j'accumule les points, puis l'équipe qui a le plus de points est en avant de celle qui en a moins qu'eux. Puis dans le cas de, en ce moment, la 25e équipe au pays, c'est Florida avec 103 points de reçus. 26e serait Clemson avec 76 points. 27e, Missouri avec 72 points. Et 28e, Kansas State avec 54 points. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que les récents insuccès de Missouri, on s'en rappellera depuis environ 5 ou 6 ans, c'est pas une équipe qui termine vraiment haute. On se bat pour une place pour un bowl, donc une fiche de 500. Un peu le même principe qu'Alabama. Alabama, on leur donne le bénéfice du doute parce qu'on est au sommet pendant très longtemps. Missouri, on était dans les bas-fonds pendant très longtemps, les voteurs se disent « Montrez-nous en plus. » Trois victoires, c'est beau. Vous avez une grosse victoire contre Kansas State, mais le reste de votre saison ne sera pas facile dans la SECS. On veut voir d'autres grosses victoires, puis vous allez vous mériter une place dans le top 25 si vous êtes capable de rester invaincu jusqu'à tout de moins le match contre Georgia.
All right. Là, je veux parler de la situation de Tennessee-Florida. OK? On l'a dit tantôt, Tennessee ont upset... Florida a upset Tennessee 29-16. Parfait. Là, présentement, ce que ça a eu comme impact dans le top 25? Tennessee a droppé de 12 positions. Donc, ils sont présentement 23e au pays avec 2 victoires, 1 défaite. Par contre, Florida, qui, eux, ont fait leur entrée dans le top 25, aussi avec 2 victoires et 1 défaite. Donc, ont le même record. Par contre, ils ont gagné contre ces fameux Tennessee-là. Donc là, la question, c'est de savoir, est-ce que Tennessee mérite vraiment de dropper de 12 places? Si oui, ben pourquoi il ne mériterait pas, mettons, d'être en 25e position puis peut-être rentrer Florida au-dessus d'eux autres en 24e puis tu montes Iowa, justement, en deuxième position? Parce que tu parlais tantôt, le fameux score, Tennessee ont quand même eu 198 points puis Iowa 125. Donc, il y a une belle marge entre Tennessee puis Iowa. Fait qu'il y a encore du monde qui croit en Tennessee. Ils ont droppé de 12 points, mais il y a encore du monde qui croit plus à eux que à Iowa ou à Florida.
Ouais, écoute, c'est sûr que se poser la question, il y a mille et une réponses parce qu'il y a au-dessus de 1000 personnes qui votent pour ces équipes-là. Mais au final, l'explication logique que je peux donner, puis je suis pas un fan de la règle des trois équipes au college football, mais on va regarder ce match-up et on va dire, OK, Florida, de la manière que Florida ont perdu contre Utah, ça fait en sorte que Utah, que Tennessee vont être classés devant eux. Honnêtement, j'ai de la misère à l'expliquer logiquement parce que tu te dis, OK, ces deux équipes-là ont chacune une défaite. Puis Tennessee, leur défaite, c'est contre Florida. Techniquement, Florida devrait être devant eux. J'ai de la misère à justifier comment. Ce qui serait intéressant de voir, ça serait de voir ce que serait quoi la cote de Vegas si les deux équipes se réaffronteraient aujourd'hui. Est-ce qu'on mettrait encore Tennessee favori? Est-ce que Tennessee serait favori sur un terrain neutre ou il faudrait qu'il soit à la maison pour être favori? Ça, c'est quand même assez intéressant. Puis honnêtement, j'ai pas la réponse pour toi.
All right. Si on continue présentement au top, le seul changement qu'il y a eu, c'est que Florida State était deuxième, Texas était quatrième. Les deux équipes ont gagné. Puis les deux équipes ont gagné difficilement. Je pourquoi Florida State a descendu en quatrième position puis Texas a monté d'une position. Ça méritait-tu vraiment de faire un switch? Puis là, tu vas me dire, les scores sont à 2 points de différence. Je comprends, là. Mais pourquoi le monde... tu sais, Texas, là, au début de la... Ils ont réussi à gagner ce match-là, là. Je comprends, là. Sauf que c'était quand même... jusqu'au milieu du match, là, c'était pas facile, là. Il était sur le upset alert pendant une partie de la game, là. Un moment donné, c'était même Wyoming. Ouais, c'était 10-10 au troisième quart, là. Il a fallu qu'il marque 21 points au quatrième quart pour gagner. Ça, puis dire, ah, est-ce qu'on est bon? Ouais, mais quand c'était 10 à 10, par exemple, là, tout le monde se regardait, puis tout le monde disait, tabarnak, ça va pas bien finir cette affaire-là. Martin Plouffe rongeait les ongles jusqu'au coude dans son salon. Puis là, non, Texas ont vraiment mieux performé, méritent de monter d'une position, puis Florida State de descendre de une. Tu t'endoses ça, toi?
Non, je l'endosse dans le sens que moi, j'ai pas changé mon top 3. Mon top 3 personnel, j'ai quand même Georgia numéro 1, j'ai Texas numéro 2, puis Florida State 3e. Puis la raison pourquoi que je garde Texas 2e, c'est tout simplement parce que Texas ont eu la plus grosse victoire de l'année jusqu'à présent, selon moi, en battant Alabama à la maison de façon convaincante. Mais ce que j'explique mal, c'est pour comme la question que tu poses, c'est pourquoi que ce match-là fait en sorte qu'il switch. Je suis pas capable de l'expliquer. Moi, personnellement, j'avais Texas devant Florida State avant ce match-là.
À la base.
Donc, les personnes qui votent, ont-ils vraiment porté attention au match ou ont tout simplement regardé le classement ou regardé l'horaire, se sont dit « OK, Texas ont gagné par quoi 17 points ou 3 touchés. Ils ont gagné par 3 touchés. Okay, c'est une plus grosse victoire qu'ils ont gagné par 3 points. Donc, on leur donne plus de votes. » Tu sais, il faut se dire là, que le AP poll, c'est par des journalistes. Puis les journalistes, souvent, sont attitrés à une équipe X. Donc, le journaliste, exemple, qui suit Mississippi State. Mais lui, sa job, c'est de suivre Mississippi State. Il est là 4 heures avant le match. Il interview les joueurs, les instructeurs, le staff. Il regarde le match pendant 4 heures, puis après le match, il fait des entrevues, puis il écrit des articles, puis il est sur des émissions de radio, puis c'est sa job. Il passe 10 heures de sa journée sur Mississippi State. Donc, il n'a probablement pas le temps de passer beaucoup de temps à regarder des matchs comme que nous, on fait. Puis probablement qu'il regarde le scoreboard, puis il dit « Ah, ben Texas, comme que j'ai, ont gagné par 3 touchés, puis Florida State ont gagné par 3 points. Donc, je vais voter pour Texas, tout simplement. » Il n'y a pas beaucoup là, de pensée et de délibération là, derrière tout ça, malheureusement.
Martin Plou demande, puis il dit que la défensive de Texas est vraiment impressionnante depuis le début de l'année. Ça peut-tu expliquer qu'il soit devant Florida State? Ça a-tu fait partie de ta décision quand tu les as mis devant, toi, dans ton top 20, top 12 maison?
Moi, personnellement, comme j'ai dit, c'est tout simplement la victoire contre Alabama la semaine dernière. À Alabama, tu gagnes par plus d'un touché. C'est la raison pour laquelle j'ai été classé devant Florida State. Mais tu vois, Florida State, ils ont un autre gros test cette semaine. On va en parler plus tard, mais le match contre Clemson, ça ne sera pas facile. Est-ce que si Florida State sort fort et pas Clemson de façon dominante par plus de 2 ou 3 touchés, est-ce que je vais faire le switch potentiellement? Mais comme Martin dit, si la défensive de Texas se lève et qu'on limite une autre équipe à peu de points, ben peut-être que je ferai pas ce switch-là cette semaine. Mais à vrai dire, les deux prochaines semaines pour Texas, c'est contre Baylor et Kansas. Ça devrait être 2 victoires, selon moi, faciles. C'est par la suite que ça va être intéressant. Tu as le Red River Shootout là, qui revient avec Oklahoma, qui devrait se rapprocher là, du top 10 rendu à ce moment-là. Donc, vraiment, là, pour ces équipes-là, c'est vraiment de rester invaincus puis de gagner leurs matchs qui sont censés de gagner de façon convaincante. Puis les matchs plus difficiles, ben de les gagner tout simplement. Donc, rendu là, être 2e ou 3e, ça change-tu vraiment quelque chose, selon moi, pour beaucoup? Là, c'est tu fais les éliminatoires, c'est ce qui était important pour 2 programmes qui les ont malheureusement pour eux jamais fait.
Yes, je comprends. Parfait. All right, donc ça fait le tour un peu pour le segment. J'avais-tu une autre question? Pourquoi FSU? Non, c'est bon. Parfait. Donc, on continue ça avec le Helmet, Sticker and Flags, puis on va merger ça avec le HO. On va faire ça tout ensemble dès maintenant. Yeah. Yes, donc sticker and flag de la semaine, on donne de l'amour puis on donne des petits tapes du chapeau à certaines personnes. Wallet, je vais commencer avec toi, ton sticker de la semaine, à qui tu veux donner du love cette semaine?
Ouais, écoute, j'en ai pas parlé tantôt parce que je suis quand même assez heureux de cette performance-là, mais les Tigers, go Tigers, de RSU qui remportent leur match sur la route dans un environnement hostile à Starkville, au Mississippi, contre les Bulldogs de Mississippi State. Match remporté 41-14. Ça a été, honnêtement, LSU ont pris les Bulldogs de Mississippi State, puis ils ont écrasé leur face dans la boîte, puis ils leur ont laissé aucune chance de revenir dans ce match-là. Match incroyable de Malik Nabers qui termine le match avec 239 verges de capté et 2 touchés. Son carrière, naturellement, Jaden Daniels, qui lui termine le match avec 425 verges combinées. 2 touchés au sol, 2 touchés aériens. Vraiment une performance qui fait du bien pour l'offensive de LSU. La défensive de LSU qui n'a pas été vraiment mise à l'épreuve dans ce match-là, mais ça fait du bien. Puis c'est des performances là, incroyables. Malik Nabers fait partie là, de la lignée des receveurs de passes incroyables à LSU. Puis ces statistiques de ce match-là étaient exceptionnelles.
Yes. Moi, mon sticker de la semaine va revenir à Colorado State, en fait, puis par la bande à plusieurs équipes du Group of Five. Depuis le début de la saison, il y a plusieurs équipes du Group of Five qui surprennent, voire même donnent du challenge assez intéressant à des équipes du Power Five. Donc, Colorado State, en fin de semaine, le match est incroyable, l'intensité est incroyable, ce qui se passait sur le terrain. Un moment donné, dans la discussion du Paul-Lucide, PL, le bon vieux PL, il dit « J'aurais pas voulu être arbitre sur ce match-là. » Moi, je dis au contraire, j'aurais voulu arbitrer ce match-là parce qu'il faut que tu restes sharp tout le long de la fucking game parce que tu peux pas en manquer un. Puis Colorado State était mean, était physique, était mauvais, était méchant. On donnait du refil à retard à Colorado. Puis Colorado se sont un petit peu, comment dire, se sont fait chauffer les fesses, là, ils s'en sont fait donner une sincère. Là. Ça a été un match qu'ils ont remporté, mais d'après moi, ce match-là a laissé beaucoup de traces, a laissé beaucoup de bleu à la majorité des joueurs dans cette équipe-là. Donc, j'ai aimé la physicalité de Colorado State dans ce match-là, donc je leur donne mon chapeau, mon sticker de la semaine, même s'ils n'ont pas gagné, chapeau vraiment, ça a été vraiment une belle performance. Continuer ça avec le flag la semaine à qui on veut donner un peu de hate. On veut taper sur le chapeau puis envoyer promener quelques personnes. Qui c'est que t'as puis pourquoi?
Ouais, écoute, mise en situation, c'est dans le match entre Tennessee puis Florida. Il restait 9 secondes au match. Florida menait 29-16, donc par 13 points. Le match était hors de portée pour Tennessee. Josh Heupel, l'instructeur-chef de Tennessee, call un timeout, le dernier du match avec 9 secondes à faire. Alors que le corps arrière de Florida était en formation pour mettre un nid au sol, on prend le timeout. Le jeu d'après, le corps arrière essaye la même chose. Puis, boum, on a une mêlée. Les joueurs commencent à se taper sur le casque. Tu sais, comme des épées. Là, ça, c'est une affaire que je comprends pas. Là, quand tu square off avec quelqu'un qui porte un casque, puis tu t'apprêtes à le frapper avec rien dans les mains. Je peux croire qu'il y a de l'adrénaline, mais écoute, c'est un move d'épée de Josh Heupel. C'est, je sais pas où
qu'il a pourquoi fait prendre son timeout.
Qu'est-ce que t'essaies de prendre son timeout, c'était ridicule. Écoute, c'est une rivalité. Tu sais que les joueurs ont de la testostérone au tapis. Les joueurs s'aiment pas. Regarde, prends tes flûtes, va-t'en, va serrer la main au coach, puis dis l'an prochain, on va revenir, puis on va vous battre. Ça devrait être aussi simple que ça, mais non, on prend ce timeout-là. Ce qui mène à une mêlée, puis là, on a 4 joueurs qui sont suspendus. Donc, un move d'épée de Josh Heupel qui mérite mon flag de la semaine.
All right. Mon flag de la semaine nécessite aussi une petite mise en contexte. Pour ceux qui n'ont pas écouté depuis le début du show, on vous en a parlé, le match Colorado contre Colorado State, rivalité d'État, c'était à Boulder, c'était au Colorado, College Game Day était là, l'animosité était à son paroxysme, le coach de Colorado State a fait des commentaires sur le fait que Deion Sanders portait ses shades, Deion Sanders a acheté des shades à toute son équipe, s'est servi des mamas, il en avait parlé justement, il a dit « Ah, moi, ma maman m'a montré à être poli puis à enlever mes lunettes. » Le Sanders en a fait « Ah, ils n'ont rien contre nous, fait qu'ils font, ils rendent ça personal. » Donc, la grosse animosité là, au paroxysme, dans le tapis. Là. Le match se passe, encore là, l'animosité est là, la tension est là. C'était un match là, for the ages, très honnêtement. Là, c'était exceptionnel comme match. La fin du match arrive. En deuxième prolongation, Colorado gagne. Ben, l'équipe de Colorado, là, qui sont habitués à se faire fourrer ça dans le cul puis à perdre des games année après année, là, ils ont storm de fucking field. Ils sont allés sur le terrain puis ils étaient fucking contents parce qu'eux autres, depuis 8 heures le matin, qu'ils buvaient de la bouse, ça c'est sûr et certain parce qu'il y avait College Game Day. Puis en plus, ils gagnent dans un match de rivalité, ils gagnent avec une animosité qu'il y avait là, ils décident de storm de field, ils courent sur le terrain. Puis là, t'avais plein d'analystes, puis t'avais plein de posts sur les réseaux sociaux. Franchement, vous venez pas de gagner le college football playoff, blablabla. Vous étiez supposé gagner par 21 points. C'est quoi ça, Rush Hill Field? Chris, ils ont une historique de perdants. Ils sont habitués de perdre. Ils ont jamais eu ça, 3 victoires dans une fucking saison, 5e. Laissez-leur, est-il la chance de fêter cette victoire-là, laissez-leur l'opportunité de le faire, Chris. Ça se peut qu'ils n'en gagnent pas d'autres de l'année, calvaire. Arrêtez de dire qu'ils overreact et de les shamer. Là. Pour eux, là, c'était probablement leur Super Bowl, là, ce match-là. Là. Puis ils l'ont gagné en 2e prolongation. Imaginez-vous comment c'était intense, ce match-là. C'était un estrade tout le long. On l'a dit, ça a duré 5 fucking heures parce qu'il y avait des flags sur toutes les estides de jeu. Laissez-les storm the field puis collissez patience aux kids. Je comprends pas les membres des médias qui sont allés dire.
Moi, la chose que je dirais.
Pourquoi ils font ça, sont perdants? En tout cas, ouais, vas-y.
Mais la chose que je dirais là-dessus, c'est que va falloir aussi là, qu'on balance ça parce que tu peux pas rush the field à toutes les semaines non plus. Mais tous tes arguments sont très très bons selon moi. Là. Mais la semaine dernière, c'était contre Nebraska. C'est grave. Ok, il y a une rivalité, mais tu comprends?
Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais en fait. De base, Rush Hill Field, je suis pas un fan de cette affaire-là. Ça donne toujours droit à des scènes assez cocasses quand il y a du monde qui se pousse avec le poteau au début, ça je suis d'accord. Mais ça reste quand même que dans ce cas précis-là, c'est une des occasions que je peux justifier qu'il storme le field, genre qu'il rush le field. Là. Ça peut être justifiable qu'il le fasse, tu sais. Fait que rendu là. Take it, là. Oui, il était supposé gagner par 21 points, mais Colorado State, ils ont connu une hostie de performance de fou. Prenez cette chance-là, puis faites-le, les amis. Donc voilà, c'était mon flag de la semaine à ceux qui hate les kids du Colorado pour avoir rushé le terrain à la fin de la game. On va y aller avec un segment hot take rapidement qu'on va imbriquer dans le sticker, et dans le segment sticker and flags. Ton hot take, t'en as-tu un wallet? Si t'en as pas, c'est pas grave.
Je te laisse
cette semaine. Ben, tantôt, on en parlait dans le chat, on a parlé un peu de ça, puis. Mathieu qui disait « Avec les performances douteuses de Georgia, de Florida State la semaine dernière, est-ce qu'on aura un ou plusieurs équipes invaincues cette saison? » Ça a déjà fait partie de nos hot takes précédemment, comme quoi qu'il allait potentiellement avoir plusieurs équipes avec des défaites qui allaient se retrouver dans le top 4 parce que potentiellement qu'il allait avoir des défaites de toutes les équipes cette année. Puis je pense que je persiste ces signes à ce niveau-là. Je pense que premièrement, tu l'as dit la semaine passée ou il y a 2 semaines, comme quoi qu'il allait avoir 3 nouvelles équipes dans le top 4. Je continue à croire à ça. Puis je continue à croire que potentiellement que chacune des équipes du top 4 vont avoir au moins échappé un match cette saison. Puis je trouverais ça assez excitant si ça l'arrivait. Donc, c'est mon hot take pour cette semaine.
Yes.
Yes, sir. On va continuer ça rapidement avec le segment horaire, les matchs à surveiller par catégorie la semaine prochaine dans la NCAA. Yes, match à surveiller la semaine prochaine pour la semaine 3 et le reste de la saison. On change la formule un peu, comme je vous l'expliquais. On va y aller avec certaines catégories. Au lieu de juste vous présenter quelques matchs, on va y aller justement avec des catégories, des thématiques. Cette semaine, on a plusieurs bons matchs à se mettre sous la dent. On en a beaucoup. Donc, on va essayer de tous les couvrir le plus possible et de vous faire un preview de ces matchs-là. Donc, la première catégorie, c'est si on peut regarder un seul match. Si on a juste un match à regarder cette semaine, lequel on
tu
regarde?
Veux que ta mère ou ta grand-mère aime le college football. Quel match tu veux regarder?
Quel match tu mets? Ça va être super simple. Ça va être un match de milieu d'après-midi à 15h30 sur ABC puis TSN. C'est présenté sur nos écrans. On a Colorado, 19e équipe au pays, qui s'en va rendre visite à Oregon, 10e équipe au pays. Oregon sont favoris par 21 points. Le over-under est à 71. Puis je vous le dis, dans ce match-là, bêtez le fucking over, OK? 71 points, ça va être facilement atteignable. On a l'offensive de Colorado State qui pile les points depuis le début de la saison. On a Oregon qui ont connu en 3 games, ils ont marqué 174 points. Donc, Bo Nix, piloté par Bo Nix. Donc, On en a parlé tantôt, de long en large, chapeau à Colorado d'être 3-2, mais maintenant, c'est le temps de prouver que vous êtes là pour la longue course, que vous êtes dans la cour des grands. Donc, Oregon est là, ils vous attendent de pied ferme, puis pour Oregon, le match le plus tough qu'ils ont eu cette saison, c'est contre Texas Tech. Ils ont eu un petit peu de la difficulté, même côté défensif contre Texas Tech. À part de ça, ils ont eu des matchs faciles contre genre Portland puis Hawaii, là, qui n'étaient pas super des matchs de compétition. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ça va être le premier gros défi de la saison. Puis, ça va être au rendez-vous d'après moi. Donc, je vais regarder ce match-là assurément. Puis, ça va être le temps à deux équipes de se prouver qu'ils valent leur place et qu'ils méritent d'être à cet endroit-là. Donc, si vous n'en avez qu'un seul à regarder, 15h30 sur nos écrans, regardez ça, Colorado à Oregon. Toi, Wallet.
Mais vraiment, je suis surpris que tu mettes encore Colorado, mais peut-être que ta flamme de Oregon est vraiment revenue, donc c'est pour ça que tu veux que les gens regardent Oregon. Moi, de mon côté, j'y vais un peu dans la facilité. Je vais être l'équipe sixième au pays, Ohio State, qui se déplace à South Bend, en Indiana, pour affronter l'équipe qui est 9e au pays, les Irish de Notre Dame. 6 contre 9, en soirée, dans un stade classique. Deux programmes qui sont classiques. Quoi tu peux demander mieux? Écoute, la semaine dernière, Kyle McCord, le carrière d'Ohio State, connaît enfin un bon match offensif. Vraiment trouve de belles connexions avec Marvin Harrison Jr. et le groupe de receveurs de passe. Notre-Dame, par contre, va être la meilleure défensive qu'ils vont affronter depuis le début de la saison, puis potentiellement jusqu'à temps qu'ils affrontent Penn State à la fin du mois d'octobre. Donc, vraiment un bon test pour les Buckeyes. Puis c'est un peu la même chose pour Notre Dame parce que c'est le premier gros test selon moi pour Sam Hartman. Par contre, Sam Hartman est beaucoup plus mature. C'est un gars de 5e saison au college football. Puis il compte sur potentiellement le meilleur porteur de ballon au pays. On n'a pas parlé encore cette semaine, mais Audric Estime connaît encore une grosse semaine là, la semaine dernière avec 176 verges contre Central Michigan. Moi, je m'attends à un duel assez incroyable. Les Buckeyes sont favoris par 3,5 points. Le over-under est à 54,5. Je pense que c'est un match qui se gagne en toute fin de match sur un converti de 3 points. Le over-under à 54 semble atteignable. J'ai l'impression que le Irish se sauve avec cette victoire-là, Faf, selon moi.
Oh shit, t'es gros upset à ce moment-là. Ce match-là est disponible à 19h30 sur NBC, justement. Deuxième catégorie de match qu'on veut vous parler, thématique. Le match qui va être le match le plus compétitif de la fin de semaine. Donc, des matchs qui vont être serrés. De mon côté, je vais vous parler de UCLA, 22e au pays, qui s'en va rendre visite à Utah, 11e au pays. Utah est favori par 4,5 points pour un over-under à 51. Ça va être un gros match dans la Pac-12 entre deux équipes qui, jusqu'à maintenant, sont invaincues. Donc, dans les deux cas, ça va être leur vrai premier test. Ça va être très compétitif comme match, malgré que sur papier, Utah sont beaucoup moins impressionnants offensivement que UCLA. Présentement, Bryson Barnes, il va falloir qu'il se réveille du côté de Utah pour gagner. Utah sont favoris, bien, sur le gauge de ESPN, sont favoris par 65 points contre UCLA. Par contre,
par 65 points.
65% sur 30, contre 34. Non, excuse, 65% sur contre 34. Mais sur papier, ce que je vous disais tantôt, c'est que UCLA... La moyenne de verges par match, c'est 527, puis Utah, c'est 357. Donc, une grosse différence de 200 verges. Il va absolument falloir que Utah se réveille parce que la défense de UCLA n'est pas mauvaise non plus. Malgré que la défense de Utah est meilleure que tout ce que UCLA a affronté jusqu'à présent, d'après moi, ça va être un match qui va être excessivement compétitif. Donc, je pense que il y a un potentiel d'upset en plus, mais je ne suis pas sûr que Utah couvre le spread. S'ils ne sont pas gagnés, d'après moi, ça va être en bas de 3 points. Puis le over-under à 51, je pense qu'on va être limite dessus. Donc, un match très compétitif à ce niveau-là. Wallet, quel est ton match le plus compétitif de la semaine?
Ouais, le match le plus compétitif, selon moi, ça va être le premier match de l'histoire de la Pac-2, alors que les Beavers de Oregon State, qui sont 14e au pays, on en parlait tantôt, se rendent à Pullman, au Washington, pour affronter la 21e équipe au pays, les Cougars de Washington State. Les Beavers, en ce moment, sont favoris par 3 points, et le over-under est à 56 points, ce qui est quand même intéressant, parce que c'est deux équipes qui ont de très, très bons corps arrière. DJ Uiagalelei d'un côté, Cam Ward de l'autre côté. Cam Ward, on n'en parle pas beaucoup du côté de Washington State, mais il y a déjà près de 1000 verges aériennes, puis 9 touchés depuis le début de la saison. Il fait de très belles choses, mais pour les deux équipes, c'est vraiment leur défensive là, qui fait la différence, qui font en sorte que les deux équipes sont dans le top 25, puis spécialement du côté des Beavers de Oregon State, ils accordent environ seulement 260 verges combinées par match, qui est vraiment pas beaucoup. On le sait, là, le college football, souvent, c'est des explosions offensives. Puis quand tu as une défensive qui te permet de rester dans le match en accordant seulement 260 verges totales combinées, ça donne de bonnes chances aux Beavers. Par contre, c'est un match sur la route pour eux, comme que je disais tantôt. Deux très bons carrières qui sont capables de lancer ou de courir. Encore une fois, je trouve que l'over-under à 56, il n'est pas très haut. Puis je ne sais pas si c'est la flamme en moi, mon amour de Washington State, mais j'ai l'impression que Wazoo va encore une fois causer une surprise. Un deuxième upset pour eux en l'espace de 3 semaines. On se rappellera, il avait battu Wisconsin il y a de ça 2 fins de semaine. Je m'attends à ce que les Cougs sortent encore une fois fort et remportent ce duel-là contre une équipe classée dans le top 15.
Yes. Maintenant, dans la catégorie du match le plus sous-estimé, quel match est le plus sous-estimé selon nous? Moi, je vais commencer avec le match Rutgers, qui est unranked présentement à Michigan. Michigan, qui sont deuxième au pays. Pourquoi je trouve que ce match-là est sous-estimé? En fait, c'est toi qui m'as mis cette idée-là dans la tête. Parce que présentement, Michigan sont favoris par 24 points. Le over-under est à 44. Ce qui veut dire que Rutgers vont vraiment pas marquer beaucoup de points. Voilà, ça fait 3 semaines que tu me casses les oreilles comme quoi que Michigan, c'est des astis de bombes puis qui sont pourris. Puis là, Rutgers, ils ont une solide défensive. Michigan aussi. Donc, je pense que ça va être un match à low scoring point, dans le fond. Là. Pourquoi tu penserais, toi, que Michigan pourrait échapper à ce match-là ou que ça pourrait être un match qui est sous-estimé? Ça m'intéresse de savoir ce que tu penses de ce match-là, toi.
Ben écoute, j'aime le fait que tu l'amènes comme ça. Là. Je pense pas qu'il y ait deux upsets ici. Je pense que Michigan pourrait l'emporter, mais comme tu dis, Michigan, on dirait qu'ils ont de la misère à marquer des points. J.J. McCarthy fait des erreurs un peu stupides depuis le début de la saison. Puis Rutgers, comme tu le dis, ont une bonne défensive. Donc, si on est capable de contrôler le temps de ballon du côté du Scarlet Knight, il y a possibilité que le match soit plus serré là, que le 24 points d'écart qu'on donne à Michigan. Est-ce que ça va être le match le plus sous-estimé?
Je pense qu'il y a du monde qui pense que ce match-là, c'est plate et qu'il l'écouterait pas. Je pense que ça pourrait être un match qui serait quand même intéressant.
Je suis d'accord avec toi parce que si Rutgers est capable de garder ça avec moins d'une possession de ballon au quatrième quart, ça veut dire qu'ils ont battu Vegas puis que ça va être un match qui est sous-estimé. Donc, c'est une belle affirmation. Faf, chapeau à ce niveau.
Non, mais c'est surtout que Rutgers, présentement, ils sont invaincus 3-1. Ils ont déjà gagné dans un match de conférence dans la Big. Les deux équipes sont dans la Big Ten East. Là. Donc, je trouverais ça intéressant que. Je suis pas sûr qu'ils vont avoir un upset nécessairement, mais d'après moi, ça va être un peu plus intéressant que le spread peut le laisser paraître. De ton côté, ton match le plus sous-estimé, Wallet, parle-moi pas de. LSU, non, c'est une joke.
Je pense que LSU affronte Arkansas cette semaine. Non, j'y vois qu'un match que c'est quand même fou qu'on dit que ça soit sous-estimé. C'est peut-être moi qui est fou de le dire, mais il y a de ça un mois, tout le monde parlait de ce fameux duel-là. Disait, hey, j'ai hâte à la fin septembre. Clemson affronte Florida State. Ça va être le match à suivre. Puis Clemson perd un match de façon assez humiliante contre Duke. Puis on se dit, OK, Florida State vont les détruire. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Même Vegas met le match assez serré. On dit que Florida State est favori par seulement 2 points. Puis ils sont sur la route. Donc, c'est upset alert pour Florida State, selon moi. Je pense que Clemson a monté de belles choses. L'offensive semble avoir revécu, là, parce qu'il était un peu amorphe après le premier match contre Duke. Des fois, les statistiques, ça ne veut pas dire grand-chose, Faf, mais Florida State met moins de verges au tableau en offensive que Clemson, puis Clemson accorde moins de verges en défensive que Florida State. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose parce que Florida State a, selon moi, eu le plus gros test des deux équipes en affrontant LSU, mais ça reste que ça va être un match. C'est un match qu'on parle beaucoup moins qu'on parlait avant, Puis je m'attends à un très bon duel. J'ai hâte de voir comment que Jordan Travis va sortir dans ce match-là. Mais j'ai aussi hâte de voir comment Cade Klubnik, le carrière de Clemson, va finalement jouer. Puis finalement, il faut qu'on parle de Johnny Wilson, le numéro 14 de Florida State, le gros receveur de passe. Connaît un début de saison un petit peu laborieux. Est-ce que ça va être finalement son premier match clé que le monde, l'univers college football va dire « Johnny Wilson is back » puis on va parler de lui comme d'un superstar au college football.
Yes! Oh, WPN qui est dans le chat et FSU a gagné une seule fois à Clemson depuis 2001. Donc, c'est une bonne statistique pour souligner le fait que...
C'est quand même intéressant comme statistique puisque tantôt, je parlais justement là, de Tennessee qui ont gagné une seule... La dernière fois qu'ils ont gagné dans le Swamp, c'était en 2003. Donc, bonne statistique, Blue Pennant. Ce que j'allais dire, c'est que Clemson a été tellement dominant dans les années 2010 puis Florida ont vraiment comme piqué du nez. Ça semble être le contraire, mais écoute, j'ai failli le prendre comme upset de ma semaine, mais je suis pas capable de peser sur le bouton. Tu sais, comme le même là, que je
tu sais pas lequel, là, tu suis pas. Justement, catégorie upset alert cette semaine. Quel match a un potentiel de upset? Je vais commencer ça avec un match super facile. Alabama, 13e au pays, s'en vont. Reçoivent à la maison à Tuscaloosa. Reçoivent les Rebels de Ole Miss. C'est pas un upset alert, c'est un upset assuré. Je suis même pas sûr qu'on peut appeler ça un upset. Vegas met Bama favori par 7 points. Je pense que Vegas fume du bon weed parce que présentement, Alabama sont à peine capables de produire plus de 400 verges offensives par match alors que Ole Miss en produit plus de 525. Je pense que ça va être un shit show offensif à ce niveau-là. Le over-under est à 55,5. C'est sûr que ça va être couvert. Puis d'après moi, Ole Miss vont rapporter ça par plus de 2 possessions de ballon. Donc, mon upset alert qui est dit, c'est fait. Puis j'ai dit ce que j'ai dit. Puis je vis avec ma décision. Donc, c'est mon upset alert pour la semaine, là, sérieusement. Et quand j'ai vu ça passer, c'est un no-brainer pour moi là, que c'est le début du downfall pour Bama. Puis j'ai jamais autant espéré me tromper de toute ma vie. Wallet, ton upset de la semaine. Qui, pourquoi?
Ouais, ben écoute, mon upset de la semaine, ça va être North Carolina, qui sont 17e au pays, qui se déplacent à Pittsburgh pour affronter les Panthers de Pitt. Selon moi, c'est un match trap pour les Tar Heels. La raison que je dis ça, c'est que Pitt sont 1 et 2. Parce que leur offensive menée par Phil Jurkovec n'a fait rien depuis le début de la saison. La défensive de Pitt, par contre, est très, très bonne. C'est une défensive qui accorde seulement 17 points par match, 114 verges en moyenne par les airs, 122 verges au sol. Puis comme on dit depuis le début du podcast, North Carolina ont eu des difficultés depuis le début de la saison. C'est une équipe qui n'est pas flashy. Puis comme que je viens de dire, Phil Jurkovec mène l'offensive des Panthers de Pittsburgh. Puis on sait qu'il est capable d'exceller. Est-ce qu'il va être capable de trouver cette étincelle-là dans un match qui est sur la route pour les Tar Heels? Je pense que c'est un environnement qui va être difficile pour North Carolina. Son favori par 7,5 points avec un over-under de 50. Je m'attends à une victoire des Panthers durant ce match.
All right. Aussi sur nos écrans, suivez notre Twitter, le Twitter de Triple Option. On va mettre l'horaire des matchs qui sont disponibles au Québec. Donc, ce que vous allez voir sur nos écrans, je vais vous le résumer rapidement. En début de journée, dès midi, Florida State contre Clemson à midi à ABC TSN. Wallet vient de vous en faire un résumé assez étoffé. Oklahoma, 16e au pays, s'en va rendre visite à Cincinnati, midi sur Fox. N'oubliez pas aussi, sur vos écrans, là, à ABC puis à TSN, il y a le College Game Day, puis à Fox, il y a le Big Noon Fox, Big Noon Kickoff, quelque chose comme ça. C'est deux matchs qui sont... C'est deux émissions d'avant-match qui partent à partir d'à peu près là, 10 heures sur nos écrans. Je pense que c'est 9 heures, c'est 10 heures. C'est de bonne heure en crise. À l'Est.
College Game Day, c'était à 9 heures, puis le Big Noon, c'était à 10 heures. Ouais, donc, c'est un show de 3 heures, puis un show de 2 heures.
Exact. Vous pouvez écouter ça pour voir tout, sauf Lee Corso, être pertinent. Les matchs de milieu d'après-midi, il y a Colorado 19e qui s'en va rendre visite à Oregon 10e, comme je disais tantôt, 15h30 sur ABC et TSN. UCLA 22e au pays contre Utah, 11e au pays, 15h30 sur Fox. Donc là, vous allez devoir changer entre ces deux postes-là parce que c'est deux matchs qu'on vous a parlé, deux matchs qui ont des potentiels fort intéressants et des potentiels de upset aussi. Et Ole Miss 15e au pays, s'en va rendre visite à Alabama 13e au pays, 15h30 sur CBS. Donc j'espère que vous avez trois écrans dans votre salon ou que vous avez la manette facile avec le PIP, Picture in Picture, puis vous allez pouvoir voir plusieurs shows en même temps. Il y a aussi Maryland contre Michigan State à 15h30 à NBC. Vous pouvez rayer ça de votre liste. C'est disponible sur nos écrans. On ne vous le conseille pas. La plage horaire de la soirée, donc à partir de 19h, on a Oregon State, 14e au pays, contre Wazoo, 21e à Fox. On va avoir Baylor contre Texas. Texas, 3e au pays, contre Baylor à 19h30 sur ABC. Ohio State contre Notre Dame, le match que Wallet nous a parlé, 19h30 sur NBC. Iowa 24e contre Penn State 17e à 19h30 sur CBS. En fin de soirée, Pac-12 After Dark, Cal à Washington, 22h30 TSN. USC contre Arizona State, 22h30 sur Fox. USC sont 5e au pays, Washington 8e au pays. ESPN College ND, ça devient irregardable. Je peux pas être plus d'accord avec toi, les boys. On va finir le show audio rapidement parce qu'on a des petites urgences au niveau là, de la vessie de Wallet. Donc, chers auditeurs qui étaient en audio, merci beaucoup d'avoir été là. Ceux qui sont dans le chat, restez là. On va continuer ça après le show. C'est super intéressant ce que vous donnez comme commentaire. Donc, merci à tous d'avoir été là. Jusqu'à la prochaine fois, je vais vous dire, soyez sages, aimez-vous. Bye-bye. N'oubliez pas, semaine prochaine, on est le 27. N'oubliez pas, 27 le mercredi.
On va le rappeler sur Twitter.
I have a pseudo.